Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver juste après les informations à 18h20. Question du soir, première partie, un débat, une discussion et dans la perspective des élections américaines à venir. Et si l'Europe avait intérêt à la victoire de Donald Trump? Et puis à 19h dans l'actualité des idées et de la recherche, un historien spécialiste de la couleur, Michel Pastoureau. Il vient de faire paraître aux éditions du Seuil une histoire de la couleur rose. Alors avec lui, nous entreprendrons cette généalogie chromatique. Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 18h. Le journal est présenté par Julie Pacaud. Bonsoir Julie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'horreur et la déshumanisation dans le nord de la bande de Gaza qui vit ses heures les plus sombres d'après l'ONU. La région est assiégée par l'armée israélienne depuis 21 jours. Cette opération militaire a déjà fait 770 morts d'après la défense civile de Gaza. Comment vivre avec les inondations, l'érosion des côtes et les canicules? La troisième version du plan d'adaptation nationale au changement climatique a été dévoilée par le Premier ministre aujourd'hui. 51 mesures pour préparer le pays aux conséquences d'un réchauffement de 4 degrés. Et enfin, c'est un phénomène mis en évidence par le procès dit des viols de Mazan et qui doit aujourd'hui être pris en charge, la soumission chimique. Le Conseil national de l'Ordre des médecins appelle à rendre accessibles et remboursables les tests pour détecter une soumission chimique. Les heures les plus sombres de la guerre ont lieu dans le nord de la bande de Gaza. Les mots du haut commissaire des droits de l'homme de l'ONU qui met en garde, les actions d'Israël pourraient s'apparenter à des atrocités criminelles. Et la situation s'aggrave de jour en jour de façon inimaginable dans la région assiégée par les forces israéliennes. Les habitants, sans nourriture et sans eau, se disent horrifiés. Notre correspondante à Jérusalem, Alice Froussard, a recueilli leurs témoignages.
Dans le nord de Gaza, l'armée israélienne force littéralement les gens à quitter leurs maisons, à quitter leurs abris. Les hommes reçoivent un numéro, les femmes passent, les familles sont séparées les unes des autres et les habitants fuient, à pied, avec ce qu'ils peuvent, ne savent pas s'ils reverront un jour leur maison ou même le nord de Gaza. Comme Shirin Alijri, une déplacée de Betlaya, tous décrivent l'horreur et la déshumanisation.
Les soldats ont arrêté les jeunes garçons et nous avons dû avancer. Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. Nous avons continué notre chemin. Mais les chars passaient à côté, nous recouvraient de poussière et les soldats nous humiliaient en nous demandant où étaient Sinoir, où étaient Aniyeh. Honnêtement, nous ne savons pas ce que vont devenir nos enfants. Tous les jeunes ont été arrêtés.
Une autre déplacée, Amina, raconte qu'elle est restée enfermée à Jabalia pendant 2 semaines.
La situation à l'intérieur de l'abri était très difficile. Dans le centre d'hébergement où nous étions, il n'y avait ni eau ni nourriture. Quand nous avons évacué, l'endroit a été bombardé. Il y avait des morts, des blessés. Et le passage n'était pas accessible aux ambulances. Alors beaucoup sont morts de leurs blessures.
Les habitants du Nord, ceux qui restent, parlent de tirs d'artillerie, de massacres autour de l'hôpital Kamel Adwan, encerclé désormais par les chars israéliens. Et son directeur le précise, nous perdons au moins une personne toutes les heures à cause du manque de matériel et de docteurs.
Alice Froussard avec Mohamed Ebeid. L'hôpital Kamel Adwan de Jabalia est le dernier hôpital fonctionnant dans le nord de Gaza. Or, l'Organisation mondiale de la santé dit avoir perdu depuis ce matin le contact avec ses équipes. Le ministère de la Santé de Gaza affirme de son côté que des centaines de personnes y ont été arrêtées. L'ONU qui alerte également sur la situation de ces casques bleus au Liban, des casques bleus qui font face à une situation sécuritaire extrêmement difficile. Des tirs israéliens ont d'ailleurs visé un de leurs postes cette semaine, affirme la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Ces soldats en service s'étant retirés pour éviter d'être touchés. Bonsoir Arthur Saradin.
Bonsoir.
Correspondant de France Culture au Liban. Au Liban où la journée a été particulièrement violente, Arthur, l'armée israélienne a frappé un poste frontière avec la Syrie.
Oui, en effet, il s'agit d'une de ces journées d'escalade inédite, de nouvelles frappes ciblant les routes entre le Liban et la Syrie, mettant en péril la principale voie de transit. Pour ceux qui cherchent à fuir le conflit au Liban, ont alerté les Nations Unies. 2 points de passage sont maintenant inaccessibles, tandis qu'environ 430 000 personnes ont déjà traversé cette frontière entre le Liban et la Syrie. Israël accuse le Hezbollah d'exploiter ce passage pour introduire des armes dans le pays, notamment par ses postes situés à l'est. Très tôt ce matin aussi, 3 journalistes ont été tués dans une frappe israélienne à Hasbaya, au sud du Liban. Une guerre qui se poursuit également dans le sud du pays, donc où le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques récentes contre des soldats israéliens présents sur le territoire libanais. Des incursions de l'État hébreu qui s'intensifient, des frappes qui, elles, se multiplient au nord et au sud du pays. Une guerre qui n'en finit pas d'accélérer.
Arthur Sarada en direct de Beyrouth pour France Culture. Et le Premier ministre libanais accuse ce soir Israël de crimes de guerre après la mort de 3 journalistes tués en pleine nuit dans cette frappe à Hasbaya, localité donc du sud du Liban, située dans une région à majorité druze et jusqu'ici épargnée. C'est un scrutin déterminant pour l'avenir de la Géorgie, ce petit État du Caucase qui aspire à rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, mais dont le gouvernement a entamé un virage autoritaire et pro-russe qui l'éloigne de l'Occident. Les législatives qui se tiennent à partir de demain s'annoncent serrées entre le rêve géorgien, le parti au pouvoir depuis 2012, et l'opposition qui a formé un front commun. Et à l'approche du scrutin, la société civile s'inquiète d'un climat d'intimidation grandissant. Le reportage de Marie-Pierre Véraud à Tbilissi.
Le bureau de cette ONG du centre-ville fourmille de bénévoles. À la veille du scrutin, il coordonne les volontaires qui seront présents dans chaque bureau pour s'assurer de la bonne tenue du scrutin. Beaucoup s'inquiètent cette année. Un système électronique de comptage des voix a été mis en place et les Géorgiens se demandent si leur vote restera secret. Tamara a imprimé des centaines de tracts pour les rassurer.
Nous menons une campagne pour expliquer aux électeurs que personne ne saura pour qui ils ont voté parce que le parti du rêve géorgien au pouvoir a lancé une campagne d'intimidation dans chaque village, chaque région pour dire à tous les employés des services publics, nous saurons où ira votre voix, vous feriez mieux de voter pour nous si vous tenez à conserver votre emploi.
D'autres organisent des convois gratuits pour emmener les électeurs de Tbilissi où ils travaillent jusque dans leur village d'origine, chaque voix comptera et le gouvernement géorgien le sait bien, qui multiplie les entraves, par exemple pour le vote de la diaspora réputée pro-occidentale. Il n'a ouvert qu'une poignée de bureaux à l'étranger. On parle aussi d'infiltration des serveurs de la commission électorale par la Russie. Les rumeurs vont bon train. La société civile géorgienne se mobilise. Elle sait que c'est son destin qui se joue demain.
Apporter des réponses aux sinistrés et adapter le pays au changement climatique. Double objectif de la visite du Premier ministre cet après-midi à Givors dans le Rhône, département durement touché par les inondations la semaine dernière. Michel Barnier a dévoilé le 3e plan national d'adaptation, un plan maintes fois repoussé qui vise à préparer le pays à l'hypothèse d'un réchauffement de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Bonsoir Véronique Roberotte.
Bonsoir.
Alors on y retrouve plusieurs mesures qui vont être mises en consultation durant 2 mois jusqu'à la fin de l'année. Donc.
Oui, car la vie des citoyens compte. Leur bon sens, a dit tout à l'heure le Premier ministre, qui sollicite donc l'avis des Français sur les 51 mesures d'adaptation au changement climatique. Il faut anticiper les effets sur, par exemple, sur des travailleurs soumis aux canicules, sur le secteur des assurances, la santé, aussi avec l'apparition de nouveaux virus, imaginer et financer des îlots de chaleur, désimperméabiliser les sols, accompagner aussi les collectivités locales dans leurs aménagements. Pour cela, eh bien, il y a un fonds qui existe déjà, que le Premier ministre connaît bien, le fonds Barnier. Il a été créé en 1995. Michel Barnier était alors ministre de l'écologie, et ce fonds est l'un des leviers possibles pour contribuer à l'adaptation des territoires au changement climatique. L'annonce du jour, eh bien, c'est que le fonds Barnier va passer de 75 millions d'euros à 300 millions d'euros d'engagement l'année prochaine. Un bel effort, hein, insisté Michel Barnier en cette période de disette financière, mais avec un vrai retour sur investissement.
Le coût de cette adaptation au changement climatique doit être vu aussi comme un investissement. Un euro investi dans la prévention, dans la protection de l'environnement, c'est probablement 7 à 8 euros qu'on économise en dégâts qu'on évite, en réparation qu'on évite. Il pourra conduire à adapter nos quartiers, adapter nos lignes de chemin de fer, nos réseaux d'énergie. C'est cette écologie des solutions, très loin d'une écologie théorique, punitive, idéologique, que je veux inscrire à l'action du gouvernement et parce que j'y suis depuis longtemps particulièrement attaché.
Voilà, EDF aussi devra mener dans les mois prochains une étude de vulnérabilité, notamment pour ces centrales nucléaires fragilisées par les sécheresses.
Véronique Roberotte, et l'arrêté de catastrophe naturelle pour toutes les communes concernées par les inondations de la semaine dernière sera publié la semaine prochaine, a précisé le Premier ministre. Or, plusieurs communes du Var pourraient bien être concernées après ces inondations, alors qu'un nouvel épisode méditerranéen fait de nouveaux sinistrés. Tôt ce matin, il est tombé à Vidauban, dans le Var, 119 mm d'eau en une heure. Jamais un tel cumul n'avait été enregistré dans le département, d'après Météo France. Dans ce village de l'arrière-pays varois de 13 000 habitants, la petite rivière est en crue. Et Mathilde Vincenu, une vingtaine de personnes ont dû être mises en sécurité par les pompiers.
Dans cette impasse, quasiment toutes les maisons ont été inondées par un ruisseau, un affluent de l'Aille, la rivière qui a débordé. Les pompiers pompent l'eau accumulée dans le jardin de Michel, 83 ans. Avec sa femme, il a été réveillé au beau milieu de la nuit par la violence de la pluie.
J'ai entendu ça pleuvait très fort. Tout l'intérieur a été inondé, les meubles, les vêtements dans les armoires, la piscine. Et alors la voiture sous eau jusque dans les portes. Mon voisin, c'est la même chose.
Dans la maison d'à côté, les dégâts sont tout aussi impressionnants.
Voilà, c'est plein de boue, plein d'eau, sur quasiment 50 cm. Là, tout est mort.
Yves a dû fuir avec sa famille vers 4 heures du matin.
On a vu que la rivière commençait à déborder. Et ben, on a pris les enfants et il a fallu qu'on passe par la fenêtre parce que la porte a été déjà submergée de quasiment 10 cm. J'espère que ça ne montera pas plus, quoi.
Ici, tout le monde a les yeux rivés sur ce ruisseau qui coule en contrebas des jardins. À sec habituellement, il s'est transformé cette nuit, en à peine quelques heures, en un torrent boueux. Un voisin nous montre les débris transportés jusque dans les arbres. Le cours d'eau est monté d'au moins 5 mètres, dit-il.
L'eau, ça, c'est rien qui l'arrête. Et ça va très vite.
Tous les habitants guettent maintenant la météo et redoutent que les cours d'eau ne se remettent à gonfler cette nuit et ce week-end.
Mathilde Vincenot à Vidauban dans le Var, qui est de nouveau placée en vigilance orange pour crue, tout comme le Gard et les Alpes-Maritimes ce soir pour pluie, inondation, et ce jusqu'à dimanche. L'ensemble de la Guadeloupe privée d'électricité depuis 8h30 heure locale en raison d'un incident électrique généralisé. Les 12 moteurs de la centrale Jarry qui fournit la quasi-totalité d'électricité sur le territoire ont été arrêtés. D'après la préfecture, des salariés grévistes seraient à l'origine de cette coupure dans un contexte de conflit social qui oppose la branche énergie de la CGT à la direction d'EDF Production électrique. Électrique insulaire. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025 rejeté en commission à 3 jours de son examen dans l'hémicycle. La partie recette a été rejetée ce midi, après la partie dépenses cette semaine, faisant donc tomber l'intégralité du texte. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir.
Il faut dire que le texte a été largement remanié en commission des affaires sociales, députés de tous bords ayant profité des débats pour dire leur opposition à plusieurs mesures phares portées par le gouvernement.
Et ils ont commencé par supprimer le cadre, c'est-à-dire l'article 27 qui fixe ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le montant fixé par le gouvernement impliquait 4,9 milliards d'euros d'économies. Le voter aurait été irresponsable, a estimé le rapporteur général du texte, Yannick Neuder.
Légiférer avec cet ONDAM, si on sait que spontanément, ça va créer un déficit dans nos structures d'hôpitaux publics, ça va à l'encontre de la volonté de désendetter les hôpitaux. Et je trouve que c'est pas un message de confiance.
La commission des affaires sociales a aussi voté contre l'allègement des cotisations patronales, contre le décalage de 6 mois de la revalorisation des retraites, contre l'assujettissement des apprentis à la CSG et la CRDS, des prélèvements sur salaire qui participent au financement de la Sécu. Résultat, ce midi, quand Frédéric Valletoux, président de la commission, a voulu faire voter la dernière partie du texte, elle était vide.
Il me reste à mettre aux voix...
Non, bah non.
Il n'y a plus rien à rejeter. Bon.
C'est donc le texte d'origine, celui du gouvernement, qui arrivera lundi dans l'hémicycle et servira de point de départ au débat. Les députés avaient jusqu'à 17h pour redéposer tous les amendements adoptés, cette fois en commission. Il y en a beaucoup, notamment la taxation des retraites chapeaux, la contribution exceptionnelle sur les dividendes, d'où la très symbolique abrogation de la réforme des retraites. Cependant, en cas de recours au 49.3, c'est de nouveau le gouvernement qui décidera du contenu de la version finale, au risque, une fois de plus, de se retrouver face à une motion de censure.
Mathilde de Cariou, un projet de loi de financement de la sécurité sociale auquel la députée centriste Sandrine Josso, droguée à son insu l'année dernière, a bien redéposé un amendement pour rendre remboursables les tests permettant de détecter une soumission chimique. C'est ce que souhaite également aujourd'hui le Conseil national de l'Ordre des médecins, en plein procès dit des viols de Mazan, qui met en lumière le phénomène de soumission chimique. L'Ordre demande la prise en charge par l'assurance maladie des tests permettant de dépister les drogues ou médicaments administrés aux victimes à leur insu. Des tests et analyses aujourd'hui très coûteux. Marie-Aimée Copleutre.
Ce sont des analyses complexes qui se réalisent dans des laboratoires toxicologiques en France. Il n'y en a qu'une dizaine et c'est uniquement financé par la justice si la victime porte plainte. Or, beaucoup ne le font pas, explique Christine Louis-Vada. Elle est gynécologue obstétricienne et membre du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Les rares fois à Paris dans mon cabinet où j'ai eu des patientes qui sont venues avec cette idée qu'il leur était arrivé quelque chose le week-end, elles avaient une culpabilité, un doute qui les empêchait d'aller jusqu'au bout du dépôt de plainte.
Dans d'autres cas, les victimes ignorent qu'elles ont été droguées à leur insu. C'est ce qui est arrivé à Gisèle Pellicot.
Regardez, la patiente de Mazan, la victime des viols de Mazan, à quel moment aurait-elle pu accepter de porter plainte ?
Le remboursement serait une avancée majeure pour Sandrine Josso, la députée droguée à son insu l'année dernière et responsable de la mission gouvernementale sur la soumission chimique.
Que ce frein de prise en charge puisse continuer à exister, c'est plus possible. Et comme nous sommes actuellement en projet de loi de finances de la sécurité sociale, comme nous discutons de tous ces fonds à l'Assemblée, j'ai déposer un amendement en ce sens pour que ce soit inscrit dans le marbre, c'est-à-dire je fais suite à la demande de l'Ordre national des médecins.
En plus de l'amendement, le Conseil national de l'Ordre des médecins a envoyé une lettre à la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi qu'au ministère de la Santé.
18h14 sur France Culture. Le dopage serait-il de retour dans le cyclisme? C'est ce que laissent penser en tout cas les performances de certains coureurs comme Tadej Pogacar qui a multiplié les records, notamment lors du dernier Tour de France. Mais ce dopage ne dit pas son nom. Non, on parle de surmédicalisation et tous les coureurs seraient concernés. Bonsoir Géraldine Allot.
Bonsoir.
De la cellule d'investigation de Radio France. Alors, en enquêtant sur les soupçons de dopage qui pèsent sur le peloton, vous avez découvert que beaucoup de médicaments étaient mis à la disposition des coureurs, des médicaments autorisés, mais qui, mis bout à bout, pourraient avoir un effet dopant.
Oui, en enquêtant ces dernières semaines sur les habitudes du peloton, on a eu l'impression d'ouvrir une immense armoire à pharmacie. Un coureur français m'a parlé d'un mélange d'anti-inflammatoires, de caféine et de paracétamol, surnommé la bomba, en référence au cocktail d'amphétamine qui circulait naguère. Un autre m'a raconté qu'avant chaque course, on leur proposait un large éventail de médicaments. Nous avons fait lire son témoignage.
Dans le bus de mon ancienne équipe, le matin, avant le départ des épreuves, il y avait ce qu'on appelait la « magic box ». On trouvait du paracétamol, de la théophylline, de la caféine, de la thiocolchicoside. Les coureurs qu'ils souhaitaient se servaient. Moi, ça me gênait. Ce n'est pas mon état d'esprit.
Précisons que la théophylline est un stimulant respiratoire et la thiocolchicoside a des effets anti-inflammatoires et analgésiques.
Mais ce qui est le plus répandu dans le peloton actuellement, Géraldine, ce sont les cétones synthétiques. Alors qu'est-ce que c'est ?
À la base, les cétones sont des composés organiques produits par le foie. Mais depuis qu'elles existent en version chimique, elles sont utilisées par les coureurs sous la forme d'un petit bidon de liquide. Les équipes de Pogacar et de Vingegaard en consomment publiquement car elles estiment que c'est un simple complément alimentaire. Mais des études belges et britanniques ont montré que les cétones augmentaient la concentration d'EPO dans le sang et amélioraient la récupération. En attendant les résultats de sa propre étude, l'Union cycliste internationale déconseille la prise de cétones, ce qui n'empêche pas les équipes françaises de tolérer leur usage, même de l'encadrer, nous dit ce coureur. Nous avons fait lire ses propos.
Il y a quelques années, seules les grandes équipes y avaient accès. Aujourd'hui, c'est tout le peloton. Même les médecins des équipes en proposent. Par exemple, en stage de pré-saison en décembre 2023 en Espagne, notre médecin nous en a proposé. Et le manager était au courant. Pour moi, c'est du dopage. Ça me met très mal à l'aise.
Interroger les équipes françaises, Decathlon AG2R, Groupama FDJ, Arkea BNB, citées dans notre enquête, reconnaissent pour la première fois l'usage de cétone, mais disent-elles, c'est à titre individuel. C'est le coureur qui paye les flacons et elle n'assure que le suivi médical. Cofidis n'a pas souhaité nous répondre.
Et puis, aux trouvailles d'un peloton jamais à court d'imagination, l'inhalation de monoxyde de carbone.
Oui, ça peut paraître contre-intuitif, car c'est un gaz dangereux, mais c'est bien ce que font les leaders Pogacar et Vingegaard. Ils ont reconnu cet été avoir utilisé un recycleur de monoxyde de carbone. À la base, c'est un dispositif médical pour les personnes dialysées. Mais depuis peu, une société danoise le commercialise dans le monde sportif. On est à la limite du dopage, estime le médecin hématologue Gérardine.
On peut arriver à monter l'individu à un taux de 6-7% de monoxyde de carbone, ce qui va avoir pour conséquence une exposition à l'hypoxie et donc stimuler sa propre production d'érythropoïétine. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle une utilisation limite d'un progrès biomédical qui n'est pas considéré comme véritablement dopant pour l'instant.
Interrogé à ce sujet, l'Agence mondiale antidopage dit surveiller de près l'utilisation excessive de monoxyde de carbone dans le milieu sportif.
Merci Géraldine Allot. C'est l'investigation de Radio France et votre enquête est à retrouver en longueur sur radiofrance.fr. Vous la reconnaissez peut-être, la voix de France Gall, pour terminer ce journal avec la sortie aujourd'hui d'un morceau inédit de la chanteuse 6 ans après son décès. Morceau intitulé « La prisonnière », il a été composé en 1974, date de la première collaboration de France Gall avec Michel Berger. Ce morceau de 3 minutes, oublié peut-être dans une pile de disques, vient d'être exhumé par hasard par Warner, selon les informations de TF1. La météo avec la suite de cet épisode méditerranéen. Demain sur le sud-est du pays, du Languedoc à la région PACA ainsi que sur la Corse, les pluies seront donc généralisées, parfois marquées orageuses. Ailleurs, le ciel restera généralement bien encombré avec des passages pluvieux, excepté sur la Bretagne qui gardera un temps sec et ensoleillé. Comptez à 8 à 13 degrés en moyenne le matin, 13 à 18 degrés sur l'ouest du pays l'après-midi, 17 à 22 des frontières du nord à la Corse. 18h, bientôt 20 sur France Culture. Question du soir avec Quentin Lafay.
Merci beaucoup Julie Paco. Merci également à la rédaction de France Culture pour ce journal. Et bienvenue dans Question du soir, 1h30 de rencontres, de débats, d'analyses, de découvertes. Et à 19h, dans l'actualité des idées et de la recherche, nous recevrons un historien spécialiste de la couleur, Michel Pastoureau. Il vient de faire paraître aux éditions du Seuil une histoire du rose, de la couleur rose. Alors avec lui, nous entreprendrons cette généalogie chromatique. Mais tout de suite, place au débat du soir.
France Culture, question du soir. Quentin Lafay.
À moins de 2 semaines des élections présidentielles américaines, les sondages sont serrés entre les 2 candidats. Quelles peuvent être les conséquences d'une victoire de Donald Trump pour le continent européen? Doit-on craindre un moindre soutien américain ou y voir un moyen d'être plus indépendant? Pour le formuler autrement, l'Europe a-t-elle intérêt à la victoire de Donald Trump? Pour en discuter et en débattre, 2 invités ce soir. Justin Weiss, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes historien, spécialiste de la politique étrangère, directeur du Forum de Paris sur la paix. À vos côtés, Bernard Guetta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, eurodéputé, membre du groupe Renew Europe. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Questions du soir. Et on entame cette discussion par une citation, je vous cite même Bernard Guetta dans une vidéo que vous avez diffusée sur les réseaux sociaux. Vous disiez, je cite, « C'est dur à dire, mais nous, les Européens, devrions en fait souhaiter la victoire de Donald Trump. » Alors pourquoi faut-il la souhaiter, cette victoire?
Bon, écoutez, d'abord, il ne faudrait pas la souhaiter parce qu'elle donnerait une impulsion tout simplement terrifiante aux extrêmes droites, non seulement aux États-Unis et en Europe, mais en vérité sur toute la surface du globe. Mais néanmoins, quand on regarde les choses, le programme, les intentions de Donald Trump, ben, il a l'intention, il nous le dit, le martèle, de trouver un arrangement avec Vladimir Poutine sur le dos des Ukrainiens, c'est-à-dire sur le dos de l'ensemble de l'Union européenne. Et cela, évidemment, révulse et terrifie et révulse les Baltes, les Polonais, toutes les nations qui sont sorties, qui se sont libérées du bloc soviétique il y a 30 ans. Et cela devrait, et à mes yeux, cela pourrait très très fortement pousser les Européens à accélérer la construction d'une défense commune, d'une défense proprement européenne, et à développer des politiques industrielles communes, demandant éventuellement des financements communs, mais en tout cas, des politiques industrielles communes. Alors oui, c'est vrai, et que l'élection, une victoire de Trump, que je ne souhaite pas, c'est clair, évidemment pas, mais paradoxalement, une victoire de Trump pourrait favoriser un rebond. Mais regardez ce qui s'était passé pendant son premier mandat. Moi, à l'époque, je disais que chaque commune de l'Union européenne devrait élever une statue à Donald Trump, père refondateur de l'Union européenne. Et pourquoi est-ce que je disais
aucune
ça à l'époque?
Aucune ne l'a fait, cependant. Hein.
Peu l'ont fait. Mais pourquoi est-ce que je disais ça à l'époque? Ben, pour une raison simple, c'est que jusqu'à l'élection de Donald Trump en 2016, l'idée même d'une défense commune était complètement taboue dans l'Union européenne. Seule la France défendait cette idée. Seule la France. Les autres, c'était l'horreur. Et puis soudain, quand on a entendu à Bruxelles, au Parlement, à la Commission, dans les capitales, dans les 28 à l'époque même d'ailleurs, quand on a entendu Donald Trump dire que finalement, si un pays balte était attaqué avant de voler à son secours, les États-Unis devraient vérifier qu'il est bien à jour de ses de son soutien financier à l'Alliance Atlantique, eh bien, soudain, le tabou sur la défense était tombé. Et depuis, on a les premières briques. Ce ne sont que les premières briques, mais on a les premières briques de la défense européenne.
On va entrer dans le détail de tous ces dossiers, la défense, la politique économique. Mais avant cela, Justin Weiss, votre avis plus général, est-ce qu'une réélection de Donald Trump nous inciterait, nous, Européens, à resserrer les rangs?
Alors, pendant longtemps, moi, j'ai été partisan de cette thèse qui dit que des présidents comme Bush, George W. Bush, et Trump, disons, par leur provocation, par le fait qu'ils, disons, mettent l'Europe au défi, la conduisent à s'unir et à faire des bonds d'intégration et de progrès. Si on prend un pas de recul, c'est assez facile à comprendre. Au fond, l'OTAN, après la Seconde Guerre mondiale, a agi à la fois comme une sorte de pansement protecteur et défensif, mais a aussi anesthésié l'esprit de défense européen, en quelque sorte. Et à part quelques nations qui gardaient cette culture stratégique orientée vers le fait de s'en remettre à ses propres forces, de pouvoir avoir des forces d'intervention militaire, la France, la Grande-Bretagne notamment, à part ça, les autres Européens étaient très contents d'être protégés par les États-Unis. Et alors, il y avait ce débat, les États-Unis nous disaient « faites-en plus pour votre propre défense », et les Européens disaient « donnez-nous plus de responsabilités ». Mais en fait, tout ça était stérile. Parce qu'à partir du moment où tout le monde était convaincu que l'article 5 était valide, c'est-à-dire que les États-Unis viendraient au secours de l'Europe en cas d'attaque, bah ça n'était pas très incitatif. Et donc, de mon point de vue, le vrai moment de démarrage de la défense européenne, ce serait quand, non pas quand les Européens décideraient quelque chose, parce qu'on ne va pas contre sa propre culture stratégique, son instinct, mais quand les États-Unis retireraient le tapis sous nos pieds et décideraient de s'en aller. Au bout de 2 années, c'était en 2019, si je me souviens bien, Donald Trump a demandé à ses conseillers, pourquoi est-ce que je ne me retire pas de l'OTAN, tout bêtement. Le New York Times en avait fait un article. Et évidemment, ça, c'est le type d'électrochoc qui peut éventuellement conduire les Européens à s'unir. Et voilà. Et quand on est vraiment menacé, c'est là qu'on développe des forces et des forces communes. Bon, donc la théorie, et c'est celle à laquelle Bernard Guetta faisait allusion, la théorie.
Et jusque-là, vous étiez d'accord avec ça.
Voilà, l'électrochoc Trump, comme il y a eu un peu un électrochoc Bush avant. J'en suis pas si sûr, en fait. C'est-à-dire, j'aimerais y croire et j'aimerais penser que l'Europe réagirait de cette façon-là, mais j'ai peur que les divisions qui existent actuellement en Europe, entre Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, j'ai peur que la très grande crainte dans laquelle plongerait notamment l'Allemagne, qui a eu un petit sursaut ces dernières années avec l'attaque en Ukraine, les 100 milliards consacrés à la défense, mais on voit que ça n'est pas allé très loin et ça a été assez critiqué, que au fond, au lieu, disons, d'en tirer parti pour construire une vraie défense européenne et ne compter que sur notre propre force, y compris, par exemple, avec l'arme nucléaire française, qui est le dernier État membre à l'avoir, on ne soit tenté de revenir... disons, la queue entre les jambes auprès de Trump et de l'apaiser, en quelque sorte, et que ça se traduise davantage par un rapport de force amélioré à son profit, où les Européens céderaient davantage sur les plans économiques, éventuellement de territoire, etc., et qu'il n'y ait pas suffisamment d'unité entre Européens pour prendre la voie, je dirais presque gaullienne, française, c'est-à-dire d'une Europe unie. Je suis un peu sceptique sur l'électrochoc.
Ce que vous dites
Trump.
Aussi, c'est que peut-être que les Européens retourneraient auprès des États-Unis les uns après les autres, d'une façon beaucoup plus fragmentée, mais pour demander la même chose.
De façon désunie. Vous savez, j'aime beaucoup ce proverbe militaire ou géopolitique qui dit « Tout pays a une armée, la sienne ou celle d'un autre pays ». Et si vous pensez à ce proverbe, il a plusieurs sens en réalité, mais l'un des sens, c'est que il y a pas de vide de sécurité. Et pour l'instant, le vide de sécurité, c'est l'OTAN. Il est rempli, celui des Européens, il est rempli très largement par l'OTAN. Donc effectivement, si Trump retire complètement ou sans se retirer de l'OTAN, parce que c'est devenu plus difficile depuis un acte du Congrès qui l'empêche de le faire de façon simple, s'il jette le doute sur l'article 5, c'est-à-dire sur la garantie américaine que les Américains seront là pour défendre l'Europe, est-ce que ce signal-là sera suffisant et est-ce que les Européens considéreront vraiment que les Américains ne viendront pas à leur secours et est-ce qu'ils n'auront pas divisé à Washington, revenir à la soupe en quelque sorte.
Bernard Guetta, est-ce qu'au regard de l'histoire récente, est-ce que l'Europe actuelle atlantiste ou la part atlantiste de l'Europe a participé effectivement à anesthésier les progrès, les mouvements de l'Europe dans son unité.
Mais écoutez, je dirais précisément que ça a été vrai jusqu'à la présidence Trump, jusqu'à 2016, 17, 18, etc. Vous savez, quand j'arrive au Parlement européen pour la première fois, en 2019, j'ai cette idée en tête que les pays qui se sont échappés du bloc soviétique sont totalement atlantistes, ne font confiance qu'à la protection américaine, qu'au parapluie américain, et surtout pas à ces foutaises françaises sur la défense commune, l'autonomie stratégique, etc., etc. Et puis, je tombe sur des gens que j'avais très très bien connus quand j'étais correspondant en Europe centrale, et qui étaient là, députés, trucs, machin, etc., et qui me disent, un peu en aparté bien entendu, mais quand même, qui me disent, mais finalement Bernard, vous les Français, vous n'aviez pas tellement tort que cela, parce que quand on entend Trump, eh ben notre sang se glace dans nos veines. Eh bien, non seulement ils disaient ça en aparté, mais ils ont commencé à le dire un peu publiquement, et puis on a commencé à jeter les premières briques, on en parlait à l'instant, les premières briques d'une défense commune. Encore une fois, ce sont des petites briques, mais néanmoins, dans la prochaine commission, on va avoir un commissaire à la défense. Et ce commissaire à la défense, il est quoi ? Tiens, il est lituanien. Je le connais très très bien parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec lui pendant les 5 dernières années. C'est un ancien Premier ministre, un homme très très décidé, très habile. Il est totalement convaincu, mais totalement convaincu de la nécessité d'une défense commune. Qui va être l'incarnation de la diplomatie européenne ? Une ancienne première ministre estonienne, celle-là même qui, il y a 2 ans, nous avait lancé un défi, ou plutôt un rappel à l'ordre, et nous avait dit, mais enfin, comment est-il possible que nous n'achetions pas nos munitions en commun pour pouvoir les livrer plus rapidement et à un moindre coût aux Ukrainiens ? Non seulement elle a dit ça, mais elle a été entendue et on l'a fait. Alors, je n'ai aucune illusion, aucune naïveté. Évidemment que tout ça, si Trump était élu, parce qu'on parlera après de l'hypothèse.
On fait de la politique fiction de toute façon là.
Bien sûr, bien sûr. Mais si Trump était élu, je ne pense pas que du jour au lendemain, nous aurions une défense commune, etc. De toute manière, même si tout le monde était d'accord, pour avoir une défense, il faut au moins 10-12 ans. Donc voilà. Mais je crois véritablement que les choses pourrait avancer, et pourrait avancer précisément parce qu'il y a eu des renversements de, non pas d'alliances, de courants, absolument fascinants au sein de l'Union européenne. On avait toujours l'habitude, et pour de très très bonnes raisons, parce que ça a été une réalité très forte, de dire l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Mais aujourd'hui, il y a un axe franco, ex-pacte de Varsovie, enfin les anciens pays communistes. Et puis, à côté, il y a l'Allemagne qui meurt de trouille, du moins la coalition actuelle au pouvoir, c'est-à-dire les socialistes, les libéraux et les verts. Si la droite revient au pouvoir, il suffit d'entendre son ténor aujourd'hui, ça sera pas du tout la même chose. Et le discours vis-à-vis de la Russie sera considérablement plus dur, et notamment sur le fait d'autoriser ou de ne pas autoriser les Ukrainiens à utiliser les armes occidentales pour aller frapper l'armée russe en territoire russe. Vous savez que c'est le grand, grand débat aujourd'hui. Donc, les frontières ne sont plus les mêmes. Madame Meloni en Italie, on ne sait pas très bien où elle va tomber, mais pour l'instant, très étrangement, elle est plutôt grande défenseuse de l'Ukraine et grande défenseuse en même temps de l'Alliance Atlantique. Tout ça est neuf. Tout ça, il y a quelque chose de neuf qui est en train d'émerger. Et si Trump était élu, encore une fois, ce ne serait pas le miracle du jour au lendemain, mais ça précipiterait des évolutions très profondes.
Justin Weiss, quand on entend Bernard Guetta, on peut se dire aussi que son hypothèse est d'abord et avant tout un pari. C'est vrai que quand on pense à la défense commune, quand on pense à la défense européenne, il y a une immense différence entre la vouloir, cette défense, vouloir la mettre en œuvre et pouvoir le faire.
Oui,
oui, enfin, regardons les dernières années. C'est un peu triste parce que l'Europe a beaucoup fait pour l'Ukraine, plus que les États-Unis en réalité en numéraire. Mais ce qui a compté, c'était les armes américaines. Sans le renseignement américain, sans les conseils américains, sans SpaceX, hein. Enfin, voilà, la fourniture d'un réseau internet et de la capacité de résilience pour l'armée ukrainienne, sans les conseils de militaires, des conseillers militaires américains, notamment sur la haute technologie, etc. L'Ukraine aurait beaucoup plus reculé, peut-être perdu. Alors même que nous avons beaucoup aidé l'Ukraine, et donc c'est un. Alors, ça ne veut pas dire que on n'est pas capable de faire mieux, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas été très très bon à valoriser les efforts que nous avons faits dans ce sens. Et par ailleurs, si Trump arrive, alors ça c'est le disons, la conséquence immédiate, ce sera qu'il voudra faire ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire faire la paix en quelques jours. Et là, en effet, ce sera catastrophique. Mais est-ce que les Européens réagiront? Est-ce qu'ils seront capables de soutenir l'Ukraine seule, entre guillemets? La question s'est posée au début de l'année, parce que si vous vous souvenez, de janvier au printemps, le Sénat américain en particulier était bloqué sur l'aide, le supplemental, comme on l'appelle, l'aide à l'Ukraine. Et il a fallu que Trump débloque et donne un signal pour que, en effet, Johnson, le speaker de la Chambre, puisse libérer les sous. Nous-mêmes, on avait eu notre problème avec Orban, mais on l'avait dépassé, donc on avait libéré 50 ou 60 milliards d'euros. Au fond, la grande crainte, c'était que les Européens ne suffisent pas à aider l'Ukraine et que l'Ukraine, aidée seulement par l'Europe et pas par les États-Unis, s'effondre. Et donc, du coup, ça donne à Trump un poids décisif dans la négociation, et il peut faire avaler, comme le disait Bernard tout à l'heure, il peut faire avaler à l'Ukraine, et donc sur le dos des intérêts européens, un armistice au moins, ou un accord de paix, peut-être, ça m'étonnerait qu'on aille jusque-là, mais qui nous soit très défavorable. Et en ces cas-là, est-ce qu'il y aura une réaction européenne? Est-ce que vraiment les Européens sauront prendre? Je suis malheureusement, pour une fois, un peu europessimiste.
Je voudrais vous Bernard Guetta.
Très, très court. Justin, évidemment que nous n'aurions pas, nous, Européens, le moyen de suppléer les États-Unis. Aujourd'hui, c'est 50-50, hein, grosso modo, de l'aide.
Vous parlez de l'aide à l'Ukraine.
De l'aide à l'Ukraine. Et l'aide européenne, bon, il y a des armes, il y a beaucoup d'armes, mais c'est beaucoup plus de l'argent, alors que dans l'aide américaine, il y a de l'argent et beaucoup plus d'armes. Bon, on ne pourrions pas stupéfier à nous seuls, les États-Unis. Et si véritablement Trump voulait faire ce deal avec Poutine, et le deal c'est très clair, hein, tu gardes ce que tu as déjà conquis, mais tu n'avances pas plus. Bon, d'accord. Eh bien, à ce moment-là, nous serions obligés d'avaler notre chapeau. Et ça nous coûterait beaucoup en termes de rapport de force avec Poutine sur le continent européen. D'autant que parallèlement, évidemment, le parapluie américain continuerait à se refermer. Mais d'un autre côté, à ce moment-là, la rancœur, la peur, jouerait très fort. Parce qu'à ce moment-là, on aurait appris quelque chose. Et là, je pense qu'après avoir essuyé un grand revers, les Européens se diraient on ne peut pas se payer le luxe, si j'ose dire, d'un deuxième revers de cette ampleur. Et donc, maintenant, il nous faut une défense commune, etc. etc. C'est pour ça que je ne serais pas du tout optimiste. Je pense que ce serait un coup terrible pour l'Europe. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y aurait une possibilité
de rebond. Le schéma de Suez, en quelque sorte. Suez 56, c'est-à-dire
humiliation et rebond, voilà. Tout à fait.
Je voudrais vous faire entendre la voix du Premier ministre belge. Il partage les craintes exprimées dans ce studio et il s'exprimait le 16 janvier dernier devant le Parlement européen.
2024 will be a crucial year.
2024 sera une année cruciale. Les enjeux pour l'Europe sont considérables. Non seulement avec les élections européennes, mais également avec celle de la présidentielle américaine.
Si 2024
nous apporte à nouveau America First, ce sera plus que jamais l'Europe toute seule. Nous ne devrions pas, en tant qu'Européens, craindre cette perspective. Nous devrions l'embrasser. Nous devrions l'accepter en plaçant l'Europe sur des bases plus solides, plus forte, plus souveraine et plus autonome.
more self-reliant.
Bernard Guetta, vous avez souri tout du long de cet extrait. C'est votre thèse en partie qui est exprimée ici.
Oh, même à 100%, où j'exprime la thèse du Premier ministre, peu importe. Mais c'est la même idée. Évidemment que c'est la même idée. Et je me souviens très très bien du moment où le Premier ministre belge a prononcé ce discours dans devant la plénière du Parlement. Et nous étions plusieurs, enfin beaucoup, à nous réjouir profondément de ce qu'il disait. Vraiment, à nous réjouir profondément. Mais encore une fois, vous savez, en politique, je crois qu'on avance quand nécessité fait loi. Et ce n'est pas du tout que je pense que les Européens soient particulièrement courageux, audacieux, qu'ils voient l'avenir mieux que les autres. Non, pas du tout. Ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire pas formidable. Et l'unité européenne, c'est une arme. C'est une arme considérable qui nous rend plus forts. Mais ça ne suffit pas. En revanche, la nécessité, l'inquiétude, la peur du vide, ah oui, ça, ce sont des moteurs.
Justin Weiss, on parle depuis le début de cette conversation de Donald Trump, mais même si Kamala Harris gagne cette élection, remporte cette élection dans quelques jours désormais, la nature de la relation entre l'Europe et les États-Unis va changer, parce que Kamala Harris n'a pas le même tropisme que Joe Biden pour l'Europe, pour les intérêts européens.
Je n'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que malgré tout, elle participe de la même culture transatlantique quand même. Enfin, on a beaucoup dit ça des présidents américains qui.
Dit ça de Joe Biden surtout.
Et on a dit à l'inverse d'Obama qu'il n'avait pas de et que dans ses mémoires il dit. Comment il retire de son voyage en Europe cette impression d'étrangeté et que c'était un rêve, mais ça n'était pas son rêve à lui. Dreams from my father, dans son autobiographie, l'Europe ne fait pas partie des rêves de son père ni des siens. On l'a beaucoup dit. Et ça n'a pas empêché que il n'y ait pas de rupture majeure, en tout cas pas comparable à Trump. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand changement. Son principal conseiller Phil Gordon, son conseiller de sécurité nationale, celui de Kamala Harris, et qui probablement serait le conseiller de sécurité nationale de la présidente américaine si elle est élue, est un européaniste pour le coup. Je pense plutôt que ce sont les intérêts qui jouent et que on l'a vu sur quelque chose comme une décision comme l'IRA, qui est la grande loi de Joe Biden pour le soutien à la transition verte, disons, et qui est en fait une loi de subvention aux industries américaines pour qu'elles fassent leur transition verte et en fait indirectement
et de protectionnisme.
Protectionniste, absolument. Ouais. C'est Biden qui l'a fait et ça, je ne vois pas du tout Kamala Harris aller dans l'autre sens parce que c'est mauvais pour les Américains. Récemment, j'étais à Washington, j'entendais Jake Sullivan qui disait l'IRA, donc cette fameuse loi de 2022, si je ne me trompe pas.
Inflation Act.
Voilà, Inflation Reduction Act, assez mal nommée d'ailleurs parce qu'elle remet beaucoup d'argent public.
Bref. Si on fait Subvention Act.
Exactement. Au fond, ça, c'était très bien pour deux choses, mais pas pour la troisième. C'était très bien pour revitaliser l'industrie américaine et faire revenir, le tissu industriel à un niveau supérieur en faisant la transition verte. Et deuxièmement, c'était très bien pour faire pièce à la Chine, parce que c'est ça dont il est question. Et s'il y a un point d'accord bipartisan à Washington, c'est la menace que représente la Chine. Par contre, ajoutait-il, c'est moins bien pour la troisième chose, c'est-à-dire le lien avec nos alliés, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont en train d'éviscérer l'industrie européenne, parce que même des industriels européens investissent beaucoup plus aux États-Unis, l'énergie y est moins chère, les subventions y sont fortes, le cadre réglementaire y est plus favorable, et donc ça ne changerait pas sous Kamala Harris, et ça c'est terrible pour l'Europe, parce que ça appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire les difficultés industrielles qu'elle rencontre actuellement, donc ça ne changerait pas. En revanche, sur la ligne générale vis-à-vis de l'Ukraine, je pense qu'on aurait une ligne réaliste et retenue qui se poursuivrait.
Bernard Guetta, vous abondez, la nature de la relation entre les États-Unis et l'Europe ne changerait pas tant que ça si Kamala Harris l'emportait ?
Vous voulez dire par rapport à l'hypothèse Trump ?
Par rapport à l'hypothèse Trump, c'est incomparable, mais par rapport surtout à Biden ?
Non, non, par rapport à Biden, effectivement, ça ne changerait pas fondamentalement et même très 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 peu. Il n'y aurait que des nuances. Mais vous savez, Biden, on dit que, à juste titre d'ailleurs, que c'est le dernier président européen des États-Unis. Et là, j'aurais une nuance avec Justine Weiss. Je pense que vraiment, Kamala Harris, c'est une autre génération, certainement une autre génération que Joe Biden. C'est aussi une Californienne. Et c'est aussi, ben, je crois, ça serait aussi la première présidente des États-Unis du 21e siècle.
Donc réellement. C'est un pays tourné vers l'Indo-Pacifique bien plus que vers l'Europe.
Ah, moi, je le crois. Je le crois profondément. Et le conseiller diplomatique de Madame Harris, de la vice-présidente, et qui serait très vraisemblablement son conseiller pour la sécurité nationale, Phil Gordon, est un homme très européaniste, en ce sens qu'il connaît nos cultures et qu'il parle nos langues, particulièrement français d'ailleurs, il est presque bilingue en français, je connais bien aussi, mais c'est l'homme qui a beaucoup conseillé Barack Obama au moment de la Syrie, en lui disant non, 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 pas cette folie d'aller bombarder l'aviation militaire syrienne aux côtés de la France. Et je l'avais vu quelques 2 ou 3 mois après ça, je lui en avais fait des vifs reproches, comme vous l'imaginez, et il s'était presque mis en colère en me disant « Mais est-ce que vous imaginez que les États-Unis devraient suivre les intérêts de la France au Proche-Orient ?» Non, absolument pas. Et je crois que cet homme-là serait, je ne dirais pas un isolationniste, mais certainement avare de l'intervention et du soutien des États-Unis en Europe et au Proche-Orient.
Peut-être un autre éclairage, c'est que... moi, je me souviens qu'on disait de Reagan, donc ça nous ramène 40 ans en arrière...
Quand j'étais correspondant.
Exactement, que c'était un président californien, que c'était le premier,
vrai,
qui
oui,
n'avait pas
raison.
Tant... C'était Hollywood, c'était une autre culture américaine tournée vers la façade pacifique. Bon, et en réalité, voilà, ça n'a pas beaucoup compté.
Oui, mais l'intérêt donc, à cette époque pour la Chine et pour l'Indo-Pacifique était objectivement moindre.
Absolument, et c'est là où je voulais en venir, parce qu'en réalité, la vraie question, c'est moins la culture personnelle du président ou de la présidente...
Que si les intérêts objectifs des États-Unis.
Que les intérêts objectifs. Et là encore, la Chine pèse d'un poids... énorme. En gros, je pense que la Chine, enfin pour avoir fait quelques passages aux États-Unis ces derniers mois, un des grands atouts de ce pays qui a une vitalité en ce moment formidable, enfin qui économiquement, culturellement, universitairement, technologiquement se porte en fait très bien, mais souffre d'un mal potentiellement mortel qui est la polarisation politique et la division, etc. Ben il y a un des remèdes, c'est d'avoir un ennemi, parce que ça permet d'avoir des points d'accord. C'était par exemple le Japon dans les années 80, hein, le Japon qui faisait très peur aux États-Unis parce que ça montait en flèche, inquiétait beaucoup. Ça a été dans les années 50, évidemment, l'URSS, l'épisode du Spoutnik, etc. Et en ce moment, c'est la Chine. Il y a un vrai China Scare. Moi, j'ai entendu parler de Cold War II à Washington, la Deuxième Guerre froide, mais de façon... comment dire, routinière, pas comme une idée brillante ou quelque chose. C'était, on est en Cold War II, c'est-à-dire...
Comme une idée déjà en
voilà,
cours et à l'œuvre.
Comme une idée en cours et à l'œuvre. Et les contacts avec les Chinois sont de moins en moins denses. Et il y a et c'est un atout parce que ça force les États-Unis à se concentrer sur leur intérêt national, à taire un peu leur division politique. Et je pense que Kamala Harris, même si elle peut-être faire entendre une voix un peu plus modérée, serait surtout déterminée par ça. Et le retrait d'Afghanistan, par exemple, de Biden, qui a été terriblement désordonné, qui a coûté en termes d'image aux États-Unis, bon, c'est aussi largement pour recentrer et récupérer des forces pour pouvoir faire face à la Chine. On a dit que les États-Unis avaient intérêt à la guerre en Ukraine parce que ça permettait de remettre la main sur l'Europe, etc. Je n'en crois rien. En réalité, l'administration Biden était catastrophée que un peu comme Barack Obama avait été distrait de son pivot, souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, de son pivot vers l'Asie-Pacifique par le regain des problèmes au Moyen-Orient et la guerre contre le terrorisme, etc. De la même façon, Biden a été distrait de son pivot vers la Chine par la guerre en Ukraine, dont il ne souhaitait pas du tout l'avoir accaparé les ressources américaines. Et je pense que ça serait très déterminant pour nous. Et les Européens subiraient, alors là, on revient dans l'avenir, à la politique fiction, que ce soit Trump ou Kamala Harris, une pression énorme pour les liens avec la Chine.
Je voudrais revenir au sujet cœur de cette émission Donald Trump et vous faire commenter Bernard Guetta cette citation de Sylvie Kaufmann dans le journal Le Monde. Je la cite. Autre motif d'inquiétude, l'effet d'une victoire de Trump sur une vague d'extrême droite en Europe. Le premier mandat avait déjà vu la concordance transatlantique de Trump, de Boris Johnson au Royaume-Uni et des démocraties illibérales de Pologne et de Hongrie. Le risque, cette fois, est encore plus profond. Fin de citation.
C'est exactement ce que je vous disais au début de notre émission. Bien entendu. C'est pour ça que je...
Mais par quels effets concrets cette vague-là pourrait-elle surgir?
Je vais vous donner un seul exemple. Vous savez, le Parlement européen attribue chaque année un prix Sakharov à des défenseurs des droits de l'homme. Eh bien, cette année, les extrêmes droites unies avaient proposé qui pour le prix Sakharov? Elon Musk. Vous entendez bien? Elon Musk. Pourquoi?
Ça manque pas de sel.
Ça manque pas de sel, comme vous dites. Pourquoi? Mais c'est très simple. C'est parce que cet homme-là, en vérité, est un idéologue. Le plus riche, naturellement, mais est un idéologue de la nouvelle internationale d'extrême droite.
Et le premier soutien de Donald Trump aujourd'hui.
C'est-à-dire que les extrêmes droites, qui sont soi-disant les défenseurs des plus démunis, des plus pauvres, victimes du capitalisme libéral, et je ne sais quoi, ils voulaient donner le prix Sakharov à l'homme le plus riche du monde, défenseur de Donald Trump, dont l'une des grandes des obsessions majeures et de détruire l'Union européenne et d'abaisser les économies européennes d'une manière générale. Et pourquoi est-ce qu'il voulait le faire? Parce qu'il y avait une profonde solidarité. Il y a une profonde solidarité idéologique entre nos extrêmes droites européennes et le Trumpiste et donc Elon Musk. Bon, et voilà l'extrême droite, les nouvelles extrêmes droites aujourd'hui qui sont au pouvoir dans beaucoup de pays d'Europe, qui sont puissantes et qui montent dans beaucoup d'autres pays d'Europe, qui sont au pouvoir en Inde, qui sont idéologiquement au pouvoir en Russie, naturellement, au Bélarus, bon bref, dans beaucoup, beaucoup de pays du monde. Aujourd'hui, il y a un grand recul international de ce qui avait été la gauche et de ce qui avait été la droite dans l'après-guerre, de 45 jusqu'au début des années 2000, et un retour de ce qu'on croyait disparu, c'est-à-dire vraiment les extrêmes droites.
Oui, mais ce que j'ai du mal à comprendre, Justin Vex, moi, c'est l'effet de causalité entre une victoire, une réélection de Donald Trump.
Mais ils se sentiront ivres de bonheur.
C'est ça, c'est une corrélation des forces, en fait.
Et les
lavas
qui pourraient déferler sur l'Europe.
C'est-à-dire que ce soit au Brésil ou ailleurs, on a vu comment, disons, ça change la teneur de l'aquarium mondial. L'eau change, si vous voulez. Tout d'un coup, on a des...
ça désinhibe, ça décomplexe.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et très concrètement, si on parle du climat, par exemple, il est évident que Trump se retirerait à nouveau des accords de Paris et qu'il serait suivi en cela certainement par d'autres qui, prenant exemple sur les États-Unis et y trouvant une licence pour leurs propres agissements ou leurs propres penchants, décideraient aussi de quitter l'accord de Paris. On peut même imaginer des choses plus concrètes, c'est-à-dire non pas simplement un encouragement, une sorte d'encouragement idéologique, la mode est à ça, etc. Regardez, même les États-Unis le font, et donc un affaiblissement dans chacune des communautés nationales, dans chacun des débats nationaux des forces raisonnables et traditionnelles, mais aussi un soutien concret de Trump à ces forces-là, en favorisant tel ou tel, en les recevant à Washington avec les honneurs, en leur donnant des facilités.
Justin, si vous me permettez un exemple, Orban. Orban, c'est-à-dire que Trump soutient Orban et Orban soutient Trump. Et ils s'aiment.
De quelle façon, concrètement?
Mais écoutez, ils s'aiment d'amour, ils se voient.
Bon,
et, Trump, et Trump regarde Orban en disant... Mais,
c'est une belle histoire.
Il y a même des Européens intelligents qui pensent comme moi, qui sont formidables, etc. Et Orban revient, mais gonflé, véritablement, en disant, mais regardez... le futur président des États-Unis ne regarde qu'un seul homme en Europe, et c'est vrai, ne regarde qu'un seul homme en Europe, c'est moi, le petit Orban.
Et dans le rapport à l'Ukraine, oui. Et dans le rapport à l'Ukraine, par exemple, enfin, Orban joue une politique anti-européenne.
Et anti-ukrainienne.
Dans son rapport à la Russie, typiquement, Trump pourrait, disons, fermer les yeux sur ce que fait Orban là. Donc, c'est mauvais pour l'Europe sur le plan économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour le rapport de force avec la Russie et plus généralement pour la teneur des débats politiques. Il faut voir aussi, il me semble qu'il y a un autre aspect qui est l'exportation du style Trump. Ça, on l'a vu. Il y a des modes hein, dans les années 30, c'était la mode des régimes fascistes. Et donc, on prend des exemples. Il y a eu de moins en moins de démocratie dans les années 30, de plus en plus de régimes fascistes, etc. Bon, ensuite, les États-Unis, eux encore, sont venus à la défense des démocraties, notamment européennes. Et on changeait ça. Et après, il y a eu de plus en plus de démocratie. Là, il y en a de moins en moins. Il y a cette vague d'autoritarisme illibéraux. Ça continuerait. Et probablement, tout ce qui concerne la vérité, par exemple, les régimes de vérité, de fake news, etc., pourraient beaucoup plus que dans le premier mandat de Trump se transmettre, y compris via les organisations internationales, via l'ONU, etc. Donc, je suis en effet assez inquiet.
On parle de l'Europe depuis le début de cette conversation quasiment comme un bloc unitaire, comme un monobloc. Rappelez-nous, Bernard Guetta, pourquoi l'Allemagne craint sans doute plus que nul autre pays la victoire de Donald Trump prochainement?
À cause de la guerre commerciale. À cause de la guerre commerciale.
Parce c'est d'abord un sujet économique.
Ah, je dirais. Dans le cas de l'Allemagne, je ne dis pas dans le cadre de l'ensemble de l'Union européenne, mais si on parle spécifiquement de l'Allemagne, vous savez... On a aujourd'hui, dans l'Union européenne, une situation jamais vue. Parce que les deux premières puissances de l'Union sont en crise simultanément. Il était arrivé que, bien souvent, que la France ou l'Allemagne soient en crise. Les deux en même temps, jamais. C'est la première fois. Mais il y a une différence profonde entre la crise française et la crise allemande. La crise allemande est structurelle, alors que la crise française est essentiellement, pas seulement hélas, mais essentiellement politique et conjoncturelle. Et les Allemands regardent avec terreur l'essor de l'industrie chinoise et l'effort de réindustrialisation et de remusculation. Merci. Voilà. Je cherchais le mot. De remusculation de l'industrie américaine. Ben, comment? Par les moyens du keynésianisme, c'est-à-dire de l'aide d'État. Vous savez, les États-Unis ont lancé la vague néolibérale au début des années 80 qui a recouvert le monde et ils sont en train de relancer une vague keynésienne. C'est absolument stupéfiant. Mais les Allemands ont très très peur parce qu'ils regardent à l'Ouest, c'est ces États-Unis qui se remusclent, comme vous disiez, et c'est la Chine qui se muscle d'une manière terrifiante pour eux.
Et on rappelle que l'excédent budgétaire de l'Allemagne vis-à-vis des États-Unis est considérable, Justin Weiss.
Je pense qu'il y a un autre facteur derrière, c'est que...
L'excédent commercial, pardon.
La Chine, entrée à l'OMC en 2001, a peu à peu déteint sur le reste du monde. On pensait faire changer la Chine en la faisant entrer dans les règles du commerce mondial, mais tout le système de capitalisme d'État, des entreprises d'État, etc., a eu pour effet, a été extrêmement efficace ailleurs. C'est la Chine est le principal partenaire commercial d'une majorité des pays du monde, etc. Et peu à peu, on est en train d'adopter, au fond, les mêmes armes via les États-Unis qui ont... compris le défi et qui s'arme. Et donc, regardez la décision d'il y a trois semaines, d'augmenter les tarifs qui étaient à 10% de 35%, donc à 45% sur les voitures électriques.
Les tarifs
douaniers. Ça montre bien. Voilà. Et ça passe par les États-Unis. Mais en fait, l'origine, c'est évidemment la Chine. Sur l'Allemagne, il me semble qu'il y a quelque chose dont il faut prendre conscience. C'est qu'en effet, l'Allemagne a vu trois de ses piliers de sa vision du monde s'effondrer dans les années 2010. D'abord la Russie, et notamment l'énergie peu chère qu'elle en tirait, mais l'idée, au-delà de, disons, des intérêts commerciaux, l'idée que la Russie faisait partie du continent européen, de l'architecture de sécurité européenne, qu'il n'y avait pas de danger qui viendrait de la Russie, et qu'au fond, toute la, c'était la prolongation...
Et notamment la sécurité énergétique.
Exactement, et jusqu'au point de confier l'essentiel de leur sécurité énergétique au gazoduc russe. Et tout d'un coup, patatras, d'abord en 2008, petit coup de semonce, toutes les guerres du gaz des années 2000, et puis tout d'un coup, 2014, là, quelque chose qui s'effondre. Deuxième vision qui s'effondre, le marché chinois, parce qu'ils se rendent compte que peu à peu, ils sont devenus plus dépendants de la Chine que la Chine n'est dépendante d'eux, et notamment les industries automobiles. Et puis, troisième pilier qui s'effondre, Trump, et tout d'un coup, cette garantie de sécurité américaine n'existe plus. Et donc, en effet, il y a plusieurs hommes malades en Europe, la France en fait partie, mais l'Allemagne, de façon presque existentielle dans sa vision du monde, dans la façon dont elle se positionne. Et c'est pour ça, pour revenir au tout début de la conversation, que je me demande si on obtiendra ce sursaut si jamais Trump est
élu. En même temps, il y a ce vide franco-allemand et la Commission tend de plus en plus à devenir un véritable exécutif.
Merci.
C'est très très intéressant là, il y a une évolution fascinante.
Merci à tous les deux, on a peut-être grâce à vous deux de bonnes raisons. Non pas d'espérer, mais d'espérer un sursaut si jamais Donald Trump gagnait. En tout cas, on a bien compris que vous ne le souhaitiez pas. Justin Weil, je rappelle que vous êtes historien spécialiste de la politique étrangère américaine, directeur du Forum de Paris sur la paix. Bernard Guetta, vous êtes journaliste, eurodéputé, membre du groupe Renew Europe. Merci à vous deux de cette discussion.
Merci à vous.
Merci à vous.
Vous écoutez France Culture.
Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale.
Zoé Svez.
On se retrouve donc chaque samedi pour une émission toujours libre de tous les genres, de tous les récits, de tous les portraits, des grandes voix aux genres inconnus, des métiers cachés aux albums cultes, un récit toujours subjectif et non exhaustif avec un maître mot, le plaisir.
La série musicale, chaque samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et si nous prenions le temps d'écouter enfin celles et ceux qui parlent depuis si longtemps ?
Nora Hammadi.
Et si nous prenions le temps d'explorer les enjeux qui bousculent les territoires et imaginer ensemble des chemins possibles ? Douce France, c'est une heure pour raconter et rencontrer la France dans sa complexité, sa diversité, dans toutes ses nuances et au plus près des citoyens.
Douce